Les Déambulations de Blandine, un podcast pour déambuler librement entre art et création. Une réalisation de monstudio.tv.
Alors, on a dit 1, c'est toi, et 3, c'est moi.
Et le 2, on le saute.
C'est ça.
Nous sommes dans le deuxième chapitre concernant le premier fonds envoyé au Musée des Beaux-Arts de Nantes entre 1804 et 1811. Nous sommes dans le deuxième chapitre concernant le premier fonds envoyé au Musée des Beaux-Arts de Nantes entre 1804 et 1800. Il y a trois grandes séries de tableaux, si on veut, sur ces 40 tableaux, si on ne parle pas en termes d'histoire de l'art, mais en termes de provenance. Pour la provenance, il y a les collections royales dont on a parlé la dernière fois, les biens d'église dont on va parler, et puis les saisies de nos armées révolutionnaires en Flandre et en Italie. Donc, on commence par les biens d'église. Il faut savoir qu'à Paris, il y avait plus de 200 églises. Le clergé avait une fortune absolument énorme et le clergé faisait partie des grands commanditaires. Parce que quand on était peintre, il n'y avait pas de salon, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de fiac, ça n'existait pas. Une des façons de se faire connaître du public, c'était effectivement les commandes faites par les ordres religieux et par les églises. Donc, les peintres vont répondre de façon très importante à ces commandes, en général des grands formats, souvent très bien payés, ça leur permet de vivre quand même assez bien. Et ils répondent aussi à un mouvement intellectuel important qui est la contre-réforme. Le protestantisme est largement combattu quand même. Il va bientôt y avoir la révocation de l'édit de Nantes. Et donc, on demande aux peintres des sujets qui sont des sujets surtout du Nouveau Testament, pas de l'Ancien Testament, si on parle donc de la religion chrétienne, et moi je parle des églises, hein, et donc des églises chrétiennes, c'est là, sachant que les protestants quand même luttent un peu contre les images. C'est donc là qu'on va voir le plus de tableaux. Et donc, au moment de la Révolution, il y a saisie des biens d'église. Et tout d'un coup, dans les réserves parisiennes, puisqu'il y a plusieurs réserves, c'est envahi de tableaux d'église, des grands tableaux, et quand Bonaparte décide la création des musées en région et décide donc d'envoyer des œuvres, eh bien on pioche dans ce fonds absolument énorme et qui représente, et ça c'est assez intéressant quand même, assez bien la peinture du XVIIe et XVIIIe français. Grosso modo, hein, on est vraiment quand même dans ce type de peinture. On peut parler par exemple d'un des grands peintres de Louis XIII qui est Simon Vouet. Simon Vouet passe les premières années de sa carrière après un petit séjour à Constantinople, en Italie. Il arrive à la fin des années 1610, ne rencontre sans doute pas Caravage qui meurt avant, mais il va être très très influencé par le caravagisme. Et puis, il découvre ce que va être la grande peinture baroque, parce qu'à cette époque-là, on est en train de faire des grandes commandes pour Saint-Pierre de Rome. Et Simon Vouet, beaucoup de succès, et Louis XIII lui demande de rentrer en France pour le servir. Ce qu'il va faire, et il va à ouvrir un atelier, sa femme italienne est peintre également, il va avoir énormément de commandes. Et il se trouve que parmi les tableaux envoyés à Nantes, il y a ce grand tableau qui vient de l'église Saint-Eustache. Alors, j'ouvre le catalogue, hein, même si je fais du bruit. Moi, pour parler d'œuvres, j'ai besoin de les avoir sous les yeux. Donc on décore ces début 17e, énormément de constructions d'églises qui vont être décorées. Et puis une chose importante, les fidèles vont découvrir les peintres, la création contemporaine dans ces églises, et on a supprimé le jubé, qui était cette espèce de grille, souvent en pierre d'ailleurs, qui barrait l'église en deux. D'un côté, à l'arrière, il y avait les fidèles, et dans le chœur, il y avait les religieux, les prêtres, etc. Et on trouve qu'avec la contre-réforme, on a besoin d'être au plus près des fidèles, ils sont quand même priés d'adhérer à cette contre-réforme. On supprime les jubés et du coup, les autels vont prendre, et les peintures d'autels vont prendre une très grande place. Et justement, à Saint-Eustache, il y a une très grande peinture, deux peintures en fait, qui sont dues au pinceau de Simon Vouet. D'une part, au-dessus de l'autel, l'apothéose de Saint-Eustache, et puis au niveau de l'autel, c'est le martyr de Saint-Eustache. Donc là, on est dans les années 1630-35 à peu près à Paris. Et Simon Vouet a rapporté d'Italie cette grande peinture baroque, une espèce de souffle avec des couleurs où le jaune est très souvent prédominant, en particulier quand on a une apothéose, tout le fond du tableau est un jaune doré, on voit Saint-Eustache qui s'envole dans le ciel, suivi de sa famille. Les Romains décident de prendre toute la famille, de les brûler, vifs. Mais bon, Ils ont de la chance, ils sont emmenés tous en même temps au ciel. Et c'est donc ce moment que Simon Vouet va immortaliser, une espèce d'envolée où les nuages, les anges, tout le monde emporte cette famille. Et c'est vrai que ça n'est pas une peinture vraiment triste. On sent quand même que l'appel du ciel peut être une très bonne chose. Donc ce grand tableau a été une fois, à Nantes d'ailleurs, il y a quelques années, on a réuni à la fois le tableau qui était donc en bas de l'hôtel, le martyr de Saint-Eustache, et on a installé au-dessus, tel que c'était à l'époque, cette apothéose de Saint-Eustache. Alors, quand je dis grand tableau, pour voir, il fait 2,70 m par 2,30 m. C'est vraiment quand même des grandes machines. Alors, on continue sur ces tableaux d'église qui vont arriver, et on arrive alors plus tard, dans le 17e, on est dans les années là, 1650, on est au moment de Louis XIV, grande période de la peinture religieuse également. Et je voudrais vous parler de deux tableaux. D'une part, un peintre qui s'appelle Laurent de Lahire, qui est un peintre qui vraiment peint, j'ai envie de dire, dans le deuxième tiers du XVIIe. Et à ce moment-là, on abandonne cette grande façon de peindre, cette grande peinture baroque, pour retourner vers une peinture beaucoup plus sage, qu'on appelle l'atticisme parisien, puisqu'il était, il a travaillé surtout sur Paris, et qui est inspiré par toutes les ruines qu'on a découvertes et par tout l'art classique le plus rigoureux qui soit. Et chez Laurent de Lahire, on va retrouver, en fait, souvent d'ailleurs, dans le tableau qui est conservé donc au Musée des Beaux-Arts de Nantes, qui est le repos d'une sainte famille. On ne sait pas si c'est une fuite en Égypte, on ne sait pas exactement où c'est, mais peu importe. De toute façon, il y a une colonne et un morceau de temple, donc on voit qu'on est près de ruines antiques qui inspirent le pinceau de Laurent de Lahire. Et il se trouve que sur un des morceaux de cette ruine, eh bien, il y a les armes de la comtesse de Soissons qui a commandé ce tableau pour un couvent. Puisque, je vous disais, il y avait plus d'une centaine de couvents féminins et 200 couvents masculins, je crois, donc il y avait de quoi faire. Et c'est le couvent des Annonciades Célestes. Bien, aujourd'hui, un ordre qui a disparu, mais beaucoup d'ordres ont disparu après la Révolution. Et cette sainte famille, la composition est extrêmement simple, construite de façon assez traditionnelle sur une grande diagonale. Et la Vierge est en train de changer. Le petit Jésus, ce bébé, il y a un ange, elle est en train, et Saint Joseph, c'est très émouvant, ce père déjà attentif, regarde cette scène avec beaucoup d'attention. Extrêmement classique, c'est-à-dire très peu de mouvement, il y a juste le mouvement de la Vierge qui retient le linge de l'enfant, et puis des couleurs beaucoup plus atténuées, bleu, mauve, et puis un brun un peu chaud quand même pour Saint-Joseph. Donc ça permet, ces envois de l'État, de lire les évolutions de la peinture au XVIIe français. Dernier très grand tableau de notre histoire, c'est le repas chez Simon de Philippe de Champaigne. C'est un très très grand tableau. Là, pour le coup, il fait près de 4 mètres de large sur 3 mètres de haut. Ce très grand tableau n'est pas arrivé au moment de l'envoi, mais je tenais à en parler parce qu'il a la même provenance. Hein, ce sont les saisies du clergé, puisque ce grand tableau était conservé dans le couvent du Val-de-Grâce. C'est Anne d'Autriche qui avait commandé une grande série à Philippe de Champaigne, toute une série de sujets, et en particulier plusieurs tableaux pour décorer le réfectoire du Val-de-Grâce. Ils avaient le droit quand même un petit peu, ces messieurs qui étaient tous enfermés, de voir un peu de peinture et de se raconter un peu des histoires. Et donc, Philippe de Champaigne va livrer une série de très grands tableaux. Tous ces grands tableaux vont être très vite dispersés à la Révolution. Ils sont dispersés d'ailleurs dans différents musées, parfois vendus. N'oublions pas que les révolutionnaires prennent tous ces tableaux des églises. Les plus importants vont être conservés. Et ceux qu'on considère comme un peu secondaires, on les vend sur le marché, on a besoin d'argent, c'est pas vraiment un problème. Celui-ci, heureusement pour nous, est resté et l'État l'a gardé, l'a présenté, il a été présenté au Louvre, et puis finalement, très très grand tableau, c'est toujours un problème pour les musées. On a besoin, très souvent quand même, de faire tourner un peu les collections. Il y a une chose assez contradictoire, à la fois, il faut que nos visiteurs puissent retrouver les tableaux qu'ils aiment et donc se les approprier. Et en même temps, pour aiguiser leur curiosité, il faut parfois les enlever et en mettre d'autres. D'où l'importance des réserves. Je ne dirai jamais suffisamment que nos réserves, c'est vraiment une façon de respirer pour nos musées. Et donc, ce repas chez Simon, finalement, était en réserve depuis un moment au Louvre et l'État l'envoie en 1982 au Musée des Beaux-Arts de Nantes pour compléter la grande série du XVIIe français. Et c'est une bonne chose parce que c'est un magnifique tableau qui a été restauré il y a très peu de temps et qui a donc été, on avait fait une exposition autour de la restauration de ce tableau, de ce grand tableau. Le repas chez Simon, c'est un des épisodes de la vie du Christ où il va chez un très riche marchand qui lui offre un immense repas et il se repent d'ailleurs de tous les excès de sa vie et de tout ce qu'il a pu faire. Et du coup, c'est aussi une façon extrêmement pédagogique d'expliquer qu'à partir du moment où on se repent, on a toutes les chances d'être allé au ciel. C'est quand même une chose importante dans la pensée chrétienne. Le tableau est composé à la manière d'un bas-relief antique. Dans le fond, d'ailleurs, on a une architecture qui pourrait être une architecture grecque ou romaine, que colonnes, deux oculus qui apportent de la lumière, et puis, à la manière des Romains, Simon et le Christ sont attablés, mais couchés, à mi-couchés, et il y a toute une série de mets sur la table, des animaux, il y a un chien, un chat, qui accompagnent aussi cette scène. Évidemment, tous les gens qui sont en train de servir Simon, entre guillemets, a dit au Christ à quel point il regrettait de s'être comporté aussi mal, et le Christ lui explique que c'est ainsi qu'il va gagner le ciel. Au pied du Christ, une sainte Marie-Madeleine, qui est en train de lui laver les pieds, et dans cette scène qui est à la fois une scène extrêmement dessinée, très construite, très calme, de temps en temps, un moment de vie un peu étonnant. On ne sait pas pourquoi il y a un jeune homme derrière Simon, le doigt sur la bouche. Est-il en train de dire que le Christ dit un secret ou alors qu'il faut se taire pour l'écouter? Sans doute est-ce plutôt cela. Voilà, ce très grand tableau, au moment de sa restauration, ça nous a permis de redécouvrir tous les détails. Philippe de Champaigne a été formé dans les Flandres. Il arrive à Paris après une première formation dans les Flandres et il a ce goût de l'extrême précision. Donc on y retrouve le détail de tous les gâteaux, tous les plats, toutes les nappes. On a les plis, les nappes sont repassées à cette époque-là. Donc, on a tout, si on regarde en détail ce tableau, on a aussi le reflet de la vie de cette époque. Donc voilà, tous ces tableaux d'église qui rejoignent les musées, ce n'est pas sans poser des questions dès l'origine. Un historien d'art, Quatmer de Quincy, va expliquer que un tableau d'église doit être dans une église et pas dans un musée. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup moins de gens vont dans les églises. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait énormément d'églises et que finalement, c'est quand même pas mal de pouvoir encore les découvrir dans un musée. Ce sont trois œuvres essentielles pour comprendre la peinture du XVIIe. Donc ça nous explique tout à la fois l'influence de l'Italie, importante, ça nous explique en même temps l'arrivée des Flandres, la peinture flamande, et en France, on va faire un mixte de ces influences. Et dans le mixte de ces influences, on peut aussi lire ce que sera, quelque part, ce que deviendra l'Académie française. Parce que l'Académie va être créée sous Louis XIV, et les peintres qui avant, et on en reparlera pour un autre peintre, avaient été très influencés par leur lieu de naissance. Petit à petit, vont rentrer dans un moule qui va faire ce qu'est la grande peinture française de la fin du XVIIe, la peinture de Louis XIV.